Bienvenue à toutes et à tous, à chacun, à chacune, pour ce moment de culte en commun. Dans l'Église catholique ou même protestante unie, le calendrier liturgique a coutume de nommer les dimanches. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes le quatrième dimanche après Pâques. Mais il existe aussi le deuxième dimanche du temps ordinaire ou le troisième dimanche de l'Avent. Je vous laisse vous plonger dans cette science si cela vous intéresse. Mais aujourd'hui, je vous propose une nouvelle appellation non contrôlée, dirais-je. Ce serait huitième dimanche du temps confiné. Nous les comptons en effet ces dimanches où nous ne sommes plus réunis dans ce temple, dans la chaleur de la communion fraternelle. Nous faisons église chez nous, réunis par ce culte réinventé, nous rappelant qu'Église avec un E majuscule ne renvoie pas à un bâtiment, mais à une communauté de croyants qui, là où ils se trouvent, proclament le nom du Christ. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit Jésus dans Matthieu 18, au verset 20. Nous sommes, par son esprit, rassemblés en son nom. Alors malgré nos peurs, nos confusions, nos interrogations, nous sommes ensemble pour nous tourner vers notre Père Céleste et écouter sa parole. Ne sommes-nous pas un peu comme dans un tunnel? Nos réactions sont irrationnelles et ce virus nous affole. Peur du confinement, mais aussi peur du déconfinement. Peur de la foule, mais aussi horreur de la solitude. Peur du train-train quotidien, mais panique quand l'épreuve, l'inattendu nous tombe dessus, même l'inattendu de Dieu. Diego nous parlait des aigles la semaine dernière, ces aigles qui ne faiblissent pas et qui avancent sans se lasser. Je suis sûre aussi que ces aigles ont eu peur. Dans le psaume 94, au verset 19, nous pouvons lire « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Lorsqu'un homme marche dans l'obscurité et ne lampe à la main, même dans un tunnel, s'il voit une pierre, il ne la heurte pas, s'il voit un gouffre, il n'y tombe pas. Le psaume 119 nous rappelle que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es allé à la rencontre des disciples quand ils étaient fatigués à force de ramer. Nous te rendons grâce parce que par ton Esprit Saint, tu es présent au milieu de nous et nous faisons église autour de toi pour te louer. Et t'adorer. Nous accueillons ta présence et avons soif de ta parole. Amen. Je vous invite à entonner le chant qui s'inspire des paroles du psaume 42, comme une biche soupire après les courants d'eau, ou selon les traductions, comme un cerf altéré brame, ou comme toi, comme moi, implorons ce matin le Seigneur. Levons-nous et chantons de tout notre cœur et de toute notre voix, comme une biche soupire après des courants d'eau.
Comme une biche soupire après des courants d'eau. Après des courants doux. Ainsi mon âme soupire après toi, soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, Dieu vivant. Comme une biche soupire après des courants. Courant d'eau.
Bonjour les enfants, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai préparé une petite histoire. C'est l'histoire de la petite fille qui cherchait en elle le chemin des mots. Il était une fois une petite fille qui ne trouvait jamais les mots pour dire ce qu'elle ressentait. Chaque fois qu'elle tentait de s'exprimer ou de dire ce qui se passait à l'intérieur d'elle, elle éprouvait comme une sorte de vide. Les mots couraient dans sa tête et se bousculaient dans sa bouche, mais ils n'arrivaient pas à se mettre ensemble pour faire une phrase. Dans ces moments-là, elle devenait agressive, coléreuse, presque méchante, et les phrases toutes faites, coupantes, blessantes, sortaient de sa bouche. « De toute façon, tu ne peux pas me comprendre. Ça ne sert à rien de parler. » Mais ces mots ne servaient qu'à l'éloigner des autres. D'autres fois, elle préférait s'enfermer dans le silence avec ce sentiment douloureux que de toute façon, personne ne pouvait savoir ce qu'elle ressentait, qu'elle n'y arriverait jamais, que les mots ne sont que des mots. Ma petite histoire se finit un peu rapidement. Mais en effet, Dieu a mis dans notre cœur ce que j'appellerais le chemin des mots. On pourrait dire aussi la parole, les mots, pour pouvoir exprimer ce que l'on pense, ou dire ce que l'on ressent, ou faire passer un message. Ces mots qui font du bien. Il t'appartient à toi de trouver ce chemin. Parfois, sur un chemin, au milieu de la vie, des mots durs et blessants peuvent sortir de notre bouche. À ce moment-là, notre chemin des mots est semé de ronces, de cailloux, de branchages dans tous les sens, d'orties et de quelques fleurs piquantes, et notre cœur est attristé. On ne sait plus comment s'en sortir. Dans la Bible, qui est la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, il est dit que des paroles aimables sont comme le miel, elles sont douces pour le cœur, elles font du bien au corps. Jésus nous dit aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il prend lui aussi l'image d'un chemin. Jésus, au cours de sa vie, avait toujours une parole qui correspondait aux besoins de celui qui l'entendait. C'est un peu comme le chemin des mots de tout à l'heure. Nos mots ont un pouvoir. Un mot gentil, dit au bon moment, peut donner de la joie à celui qui le dit et à celui qui l'écoute. Et si tu vois quelqu'un de soucieux, un mot peut le rassurer et le calmer. Et si des fois, tu n'as pas les mots, comme la petite fille de mon histoire, demande à Jésus de t'aider pour dire ce dont tu as besoin aux autres, et d'une manière douce comme le miel. Tu verras alors qu'ils t'écouteront volontiers en essayant de te comprendre et de répondre à ta demande. Après ma petite histoire, je voudrais vous laisser une petite activité pour cette semaine. Mettre en pratique votre chemin des mots. Alors, si tu ne sais pas encore écrire ou lire, tu peux très bien faire un beau dessin et tu peux demander à tes parents de t'aider. Si tu sais écrire et faire des belles phrases, alors tu peux demander à tes parents de trouver une carte postale sur laquelle tu essaieras de trouver les plus beaux mots pour en faire une belle phrase ou plusieurs phrases, comme tu veux. Et la personne qui va recevoir cette carte aura beaucoup de joie à lire les mots que tu auras écrits dessus. Voilà, je vous laisse encore tous ces beaux mots en vous souhaitant une bonne semaine. Bon courage à vous et plein de beaux mots à dire à ceux que vous aimez.
Merci à Nathalie Brèche pour ces 5 minutes enfants. Et maintenant, je vous invite à chanter avec Stéphanie et Annelise Racine le chant suivant qui s'intitule « Mon encre et ma voile ». Et maintenant, nous lirons dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, d'abord dans le livre du prophète Habacuc, au chapitre 1, versets 2 à 4 et verset 13. « Jusque à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu ne m'entendes ? Jusque à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices ? Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent ? Je ne vois devant moi que ravage et violence, il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit ne triomphe pas, car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus. Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal, tu ne peux accepter de voir des méfaits se commettre. Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres ? Pourquoi gardes-tu silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui ? »
Et maintenant, dans la première épître de Pierre, au premier chapitre, les versets 3 à 9. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour ? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. »
Nous parlons de Pierre, Pierre le disciple ou Pierre l'apôtre, depuis deux dimanches. Et il y a 2 semaines, il était question de son rétablissement. Souvenez-vous, sur les bords du lac de Tibériade, un retour à la confiance, un retour à la mission d'être témoin du Christ ressuscité. Et puis la semaine dernière, nous avons retrouvé Pierre, 30 ans après, dans les années 60, quand il écrit une lettre aux chrétiens qui sont en Turquie ou en Asie mineure à l'époque. Et on découvre un Pierre qui a bien changé. Il n'est plus dans la comparaison avec les autres disciples, c'en est fini des prétentions à être le plus fort, le plus rapide, le plus engagé, le plus spirituel que les autres. Pierre se met à encourager ses amis chrétiens, ses frères et ses sœurs dans le Christ. Et pour les encourager, il commence par leur rappeler l'espérance qui est en Jésus-Christ, une espérance vivante, parce qu'elle est fondée sur le Christ ressuscité, qui est vivant et qui nous donne la vie. Vivante aussi parce qu'elle a des implications dans la vie présente. Bien sûr, on espère dans un avenir que l'on ne voit pas encore, c'est le fondement de la foi. Mais cette espérance commence maintenant comme une corde d'escalade. Nous ne voyons pas toujours le point d'ancrage plus haut sur la voie, où on a perdu de vue le premier de cordée, Jésus, qui a fixé les pitons, mais nous avons la corde entre les mains qui nous sécurise et qui nous aide à grimper, à aller plus haut dans la vie chrétienne. Et vous l'avez compris ou retenu, si nous prenons l'image de la corde, c'est parce qu'en hébreu, c'est le même mot pour désigner à la fois la corde et l'espérance. La tikva, la corde, espérance. Et puis, toujours pour nous encourager, Pierre nous parle de cet héritage que nous avons dans les cieux et qui n'est pas sujet aux fluctuations de la bourse ou à la baisse du produit intérieur brut, le PIB, le fameux PIB. Non, cet héritage nous est gardé dans les cieux et nous sommes aussi gardés pour cet héritage. Il y a à la fois l'idée de la fidélité de Dieu, mais aussi l'idée de sa protection, une protection rapprochée pour chacun d'entre nous. Tu me gardes, Seigneur, jusqu'à la fin. Et puis, Pierre va nous parler des épreuves, parce qu'il fallait en parler à l'époque où les chrétiens sont dispersés dans l'Empire romain, où ils ont un statut précaire de résidents temporaires, c'est-à-dire sans protection, ni légale, ni sociale. Il fallait en parler parce qu'elles sont là, les épreuves. Il fallait en parler à ces chrétiens de première ou deuxième génération qui s'étonnent peut-être de vivre ces épreuves et tant d'épreuves, alors qu'ils se souviennent qu'on leur avait parlé de vie abondante. Oui, il fallait en parler des épreuves et il faut en parler aujourd'hui encore. Alors que nous traversons un temps d'épreuves assez particulier. Je parle de cette épidémie, du confinement. Particulier parce que cette épreuve est à la fois mondiale, mondialisée, mais aussi très personnelle. Chacun vit son épreuve à son niveau, il a ses propres inquiétudes, ses propres réactions par rapport à la peur de la contamination, la peur de la mort. C'est un temps d'épreuve assez inédit et les baby-boomers, comme la génération millennium qui nous suit, ne s'y attendez pas à cette épreuve. Et la question se pose pour nous également, que faire de ces épreuves, celle-là et puis toutes les autres? Comment les intégrer à notre vie de foi? Alors Pierre répond à cette question en rappelant d'abord l'espérance qui est en Christ, ça c'est fait, et de belle manière. Ensuite, il va aborder de front la question des épreuves. Il en parle au verset 6. Il ne veut pas éluder la question parce qu'elle est sensible. C'est une question sensible, autant pour lui que pour eux, les chrétiens d'Asie mineure, que pour nous. Et il va commencer un peu bizarrement par un « même si » ou un « quoique » qui vient comme une concession, même si pour l'instant vous passez par quelques épreuves. C'est là ce qui fait votre joie, même si pour l'instant vous passez par quelques épreuves. Un « quoique » qui viendra en quelque sorte contraster avec l'espérance vivante dont il vient de parler, ou l'héritage qui nous est gardé auprès de Dieu. Il y a tout ça, cet héritage, cette espérance, mais il y a aussi les épreuves. Mais Pierre, en fait, ne les oppose pas. Il ne dit pas que les épreuves viendraient en quelque sorte refroidir notre espérance. Non, il nous invite plutôt à regarder ces épreuves à travers la fenêtre lumineuse de cette espérance vivante, de cet héritage qui nous est gardé, de ce salut merveilleux dans lequel les anges désirent planter leur regard, comme il est dit au verset 12, un peu plus loin. Pierre, en quelque sorte, va remettre les choses en perspective par rapport aux épreuves. Et c'est, à mon avis, extrêmement utile, et plus que ça utile, extrêmement salutaire pour nous, pour les chrétiens d'alors comme pour les chrétiens d'aujourd'hui, parce que dans la vie, on manque, dans la vie, je manque bien souvent de perspective. Et c'est un défi pour moi, parce que je m'aperçois que lorsque l'épreuve survient, je perds très rapidement le projet de Dieu pour moi et pour le monde. Je pense que c'est humain, je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, mais je m'aperçois que je me focalise sur l'épreuve et sur l'effet négatif qu'elle a sur moi. Et je rentre en moi-même, et j'évalue mes émotions, j'observe mes sentiments, et dernièrement, je guette les symptômes. Et je m'apitoie sur mon sort, et j'oublie tout le reste. Et je sais que j'ai besoin d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes, d'ouvrir les baies vitrées de ma petite maison intérieure, de les ouvrir sur cette espérance vivante, sur cet héritage incorruptible. Élargis l'espace de ta tente, dit le prophète Ésaïe. Plante plus loin tes piquets, ou allonge tes piquets dans le texte. Regarde plus loin, élargis tes perspectives. Et Pierre ouvre la focale, grand angle, sur la question des épreuves. Et il va dire deux choses importantes. Dans un premier temps, il va dire qu'elles sont temporaires. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, nous dit-il au verset 6. Quelle que soit l'intensité de ces épreuves, nous dit Pierre, elles ne durent qu'un temps, un petit temps même, nous dit-il. Le temps est relatif, disait Alfred Einstein. Et le temps des épreuves également. Le temps des épreuves est relatif, c'est-à-dire qu'il faut le mettre en relation avec une autre donnée temporelle qui est l'éternité. Et le temps des épreuves est relativement court au regard de l'éternité dans laquelle nous sommes engagés, si telle est notre espérance, si nous sommes en Christ. Et cela permet non pas de relativiser les épreuves, mais de changer encore une fois de perspective. Et l'apôtre Paul, dans son magnifique chapitre 8 de l'Épître aux Romains, qui semble être l'Everest du Nouveau Testament, nous dit « Il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui va être révélée en nous. » On ne peut pas comparer les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui nous est réservée dans les cieux. Alors, ces paroles de l'Écriture, de Pierre ou de Paul, il faut les entendre. Il faut les prendre avec soi, les comprendre, parce qu'elles nous viennent de Dieu et qu'elles sont des vérités qui nous font vivre. Mais il faut avouer quand même que lorsque on est au cœur de l'épreuve, dans l'œil du cyclone, l'encouragement de Pierre qui nous dit que ces épreuves sont temporaires ne porte pas très loin. Dans l'épreuve, on a envie de dire, comme Habacuc, qui parle alors que le pays va très mal et que les Chaldéens arrivent au grand galop pour l'envahir, Habacuc commence son message par questionner Dieu, verset 2, chapitre 1, verset 2, c'est le début de son message. Jusqu'à quand, Seigneur ? C'est une bonne question, ce « jusque à quand ?» Parce que, tu vois, Seigneur, nous, les humains, on est dans ce temps présent et l'épreuve nous semble longue. « Jusque à quand ?» dit Habacuc, et nous avec lui. Et heureusement que ce questionnement d'Habacuc est dans la Bible comme une parole humaine que Dieu entend, que Dieu reçoit. Heureusement qu'elle est là pour qu'on puisse dire à notre tour, quand on est au cœur de l'épreuve, « Jusqu'à quand cela va-t-il durer, Seigneur ?» Je suis de plus en plus et toujours surpris de la liberté de ton qu'ont les auteurs de la Bible. Habacuc, mais d'autres aussi, et dans notre lecture de la Bible en 2 ans, Yvonne et moi, nous avions mercredi le psaume 69. Et il y a là un verset magnifique d'un psalmiste qui nous dit au début du psaume qu'il s'épuise à crier vers Dieu et que ses yeux sont usés à force d'attendre, de s'attendre à Dieu. Et au verset 7, il interpelle Dieu en disant « Mais Seigneur, qu'il n'ait pas à rougir ceux qui ont mis leur espérance en toi. » Et je trouvais intéressant ce lien avec l'espérance, comme dans notre passage de 1 Pierre aujourd'hui. « Seigneur, ne nous mets pas la honte, nous qui avons placé notre espérance en toi. » Jusque à quand, Seigneur ? Et dire notre impatience à Dieu, voire même notre incompréhension, c'est déjà changer de perspective et nous permettre de rentrer dans sa présence, de placer de nouveau notre confiance en lui, d'espérer en lui, sachant que le maître du temps, c'est toute chose. Et que son projet de grâce pour le monde et pour chacun d'entre nous est toujours dans son accomplissement. C'est notre espérance vivante et elle nous fait vivre. Dans un second temps, Pierre va dire que ces épreuves vont nous servir. C'est le verset 7. Qu'elles vont, en quelque sorte, nous être utiles, et plus particulièrement pour notre foi. Alors, quand on parle d'épreuves qui servent à quelque chose ou qui sont utiles à quelque chose, il faut rappeler d'emblée que Dieu ne tente personne. Que le mal ne vient jamais de Dieu, comme le dit clairement l'apôtre Jacques. La tentation ou l'épreuve, et c'est le même mot en grec du Nouveau Testament, ne sont jamais voulues ou envoyées par Dieu. Et la parole de Dieu le dit clairement, en particulier le Nouveau Testament. Et il faut rappeler que l'Ancien Testament doit être lu à la lumière du Nouveau Testament, qui nous parle sans cesse de la grâce de Dieu, du temps de la grâce. Et c'est important de le rappeler alors que certains parlent de l'épidémie comme d'un jugement de Dieu. C'est un mauvais choix de mots. Par contre, à travers cette épreuve, à travers toutes les épreuves que nous pouvons vivre, Dieu va nous travailler au cœur à cœur et au cœur de notre foi. Comme il en a le secret et il l'a montré avec cette histoire, et on l'a montré dans cette histoire de Joseph, que Dieu s'est tellement utilisé le mal pour le transformer en bien pour la famille de Joseph. Il va utiliser l'épreuve pour travailler et affiner notre foi. Et Pierre va utiliser l'image de l'or que l'on purifiait à l'époque en le passant au creuset. On fait chauffer l'or dans un récipient. Et il devient liquide, et paraît-il, je ne l'ai jamais vu, mais les scories, c'est-à-dire les imperfections de l'or, remontent à la surface, et l'artisan peut alors les enlever avec une palette en métal pour que l'or soit pur. Alors l'image ne nous parle peut-être pas beaucoup aujourd'hui, mais derrière cette image, il y a tout le travail que Dieu veut faire en nous au travers des épreuves. Dieu est cet artisan qui travaille son œuvre, il est ce potier qui façonne l'argile, il est ce pédagogue qui enseigne inlassablement son élève et pour son bien. Et dans ce travail d'artisan, il utilise les épreuves et il le fait pour notre croissance spirituelle, pour qu'on puisse devenir de plus en plus à l'image de son Fils, ça c'est le but de Dieu en nous. Et ça marche. Et on se doit de constater que les gens qui sont passés à travers des épreuves dans leur vie ont une profondeur, une authenticité, une fraîcheur même dans leur vie de foi que celui qui a eu la vie facile ou relativement préservée n'a pas toujours. On aimerait que cela puisse se faire autrement, mais il semble que seules les épreuves permettre cette transformation du cœur. Alors, encore une fois, quand on est au cœur de l'épreuve, on a bien du mal à se dire que Dieu est en train de faire son œuvre en nous. Notre premier réflexe est bien souvent de nous replier sur nous-mêmes, ou alors de fuir, ou de nous mettre en colère contre Dieu et ce monde qui ne semble pas vraiment être sous contrôle. Et ce sont des réactions normales qui sont parfois même tout à fait saines, comme la colère par exemple, mais qui doivent aussi être temporaires et nous amener à renouveler notre confiance en celui qui sait ce qu'il fait, en celui qui a commencé en nous son bel ouvrage et qui va poursuivre l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et je cite Philippiens 1,16, mais en fait cette phrase rejoint aussi ce que dit Pierre au verset 7, « Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve, elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ce que nous dit Pierre, en fait, c'est que l'or, on s'en fiche pas mal. Il parle de notre foi qui est le bien le plus précieux. Eh bien, cette foi éprouvée et épurée va être un vrai sujet de louange et de gloire et d'honneur lorsque Jésus viendra une seconde fois pour établir un monde nouveau où nous serons partie prenante dans nos corps de résurrection. Et on se rappelle que Pierre, inspiré par l'Esprit du Christ, dit ça à des résidents temporaires qui sont à la peine dans cet empire qui les écrase. Il parle à des hommes et des femmes qui sont sous pression, dans les épreuves. Et Pierre leur parle de triomphe. Non pas derrière le char du vainqueur, mais dans le char du vainqueur, avec les pétales de fleurs qu'on lance avec une hola dans le stade qui n'en finit pas. Et Pierre nous parle aussi de joie. La joie de voir Christ et de le voir pour partager avec lui notre foi éprouvée. Et dans le chapitre 4, il dit « Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. » Et vous remarquerez, et c'est assez remarquable, qu'il y a deux joies dans cette parole, une joie maintenant et une joie plus tard. Et il semble qu'il y ait un lien entre ces deux joies, que cette joie d'être avec Dieu plus tard provoque ou sous-tend notre joie d'aujourd'hui et ce, malgré les épreuves ou à travers les épreuves. Elles sont, en quelque sorte, ces deux joies, un prolongement l'une de l'autre. C'est une joie en espérance, mais dans le sens dont parlait Samuel Benetro, mon professeur de Nouveau Testament à la faculté, qui est cette espérance qui est l'entrée en jouissance maintenant, ou dans le sens de l'accord d'une joie bien ancrée en hauteur, mais dont on a déjà le bout entre les mains. Une joie aujourd'hui, en attendant la joie à venir. La joie et l'épreuve ne forment pas une paire naturelle, il faut en convenir. On pourrait à la limite les placer dans une séquence temporelle, d'abord épreuve, ensuite éventuellement et finalement la joie quand tout sera accompli. Mais Pierre nous invite à les faire coexister dans nos vies. Même si les souffrances ont effectivement une fin, même si la joie ne sera complète et parfaite que lorsque Jésus reviendra, il nous rappelle la possibilité unique qui est dans la foi, c'est d'être joyeux dans les épreuves. De cette joie qu'il y a à gravir un sommet encordé, tous ensemble, à la même espérance. Amen. Je vous invite à chanter maintenant ce chant qui s'intitule « Mon secours est en toi, seulement en toi ».
Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi.
Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul es mon Dieu, je proclame. Ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
Nous aurons notre temps d'offrande par virement ou par chèque, que ce soit pour l'offrande habituelle ou pour la journée d'offrande que nous avons lancée. Mais on me dit de vous dire que si vous faites un virement, n'oubliez pas d'inscrire votre nom quelque part sur ce virement pour qu'on puisse vous retrouver pour le reçu fiscal. Merci en tout cas pour votre solidarité en ces temps si particuliers. Les annonces. Mardi 5, groupe de maison Cannes, Zoom, sur Zoom ou avec Zoom à 20h30. Mercredi 6, méditation de la mi-semaine sur le Notre Père encore. Jeudi 7, il y a le comité du magazine Rio qui se réunit sur Zoom encore à 20h. Vendredi 8, nous lançons un Zoom prière aussi. Décidément, on aime Zoom. À 20h, mais c'est sur inscription, donc... Envoyez-moi votre inscription si vous avez Zoom et si vous voulez participer, puisque Zoom, on est limité à 9, je crois, ou 9-10, donc sur inscription. Dimanche prochain, le 10, nous aurons notre culte en commun avec les églises libres de la région PACA. Ça sera sur YouTube le dimanche à 10h30, sous un faux direct, mais on peut le voir à 10h30 ou après, mais pas avant en tout cas. On vous indiquera le lien quelques jours avant. Et puis mardi 12, nous avons une rencontre du conseil en Zoom aussi ou en live, puisque le 11, on nous annonce le déconfinement. Alors je vous rappelle que les rassemblements religieux sont encore interdits jusqu'au 2 juin au moins. Peut-être aurons-nous un culte en live le 7 ou le 14. On attend encore des directives d'en haut. Et puis aussi, si on a bien compris, les rassemblements de moins de 10 personnes sont permis. Donc on pourra recommencer peut-être à se réunir en privé ou à l'église si on n'atteint pas ce nombre de 10 personnes. Donc encore à discuter, à voir. Je rappelle aussi que le week-end d'église aura bien lieu le 10 et 11 octobre dans un endroit magnifique qui s'appelle la Pastorale et qui est situé, bien sûr, dans le Var.
Et nous remercions Marie-Stella qui va nous présenter la prière d'intercession.
Merci Seigneur pour ces moments de culte, pour ta parole sur laquelle nous pouvons nous poser et asseoir notre espérance dans cette période étrange que nous vivons. Merci car nous sommes assurés de ta présence, même dans nos maisons et dans nos familles. Nous remettons à toi ceux qui vivent dans la solitude et la douleur pour que tu sois leur compagnon et tu panses leurs plaies. Nous portons au trône de ta grâce les malades et leurs familles, avec la certitude que tu es El Rapha, le Dieu qui guérit. Nous pensons aussi aux soignants. Pose ta main sur eux dans toutes les décisions qu'ils prennent. Donne-leur la force qui se renouvelle chaque jour. Nous te remettons aussi toutes les personnes qui ont perdu au risque de perdre leur travail. Accompagne-les moralement et matériellement. Pour nos autorités aussi et nos dirigeants qui prennent des décisions difficiles et pas si évidentes. Sois leur guide dans ces moments si particuliers. Nous te prions en sachant que tu es là et que tu réponds. Amen.
1, 2, 3, 4. Nous avons parlé au début de la prédication de la question d'Habacuc, jusqu'à quand ? Jusque à quand ? Et j'aimerais terminer par la fin de son message d'Habacuc au chapitre 3 de son petit livre, où il passe en fait du questionnement à la louange. Mais à cause de l'Éternel, je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevé. Je pensais aussi à ce petit cantique pour terminer. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas, jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Que la lumière de Dieu soit le phare dans les tempêtes de notre quotidien. Que sa parole soit le sel de notre semaine. Que sa grâce soit l'espérance pour nos lendemains. Allons dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Bon dimanche, bonne semaine et prenez soin de vous.